France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, nous vous proposons aujourd'hui et demain de partager les souvenirs de Pierre Boulez sur Igor Stravinsky que le compositeur et chef d'orchestre confiait à Jean-Pierre Derrien en 2002 pour l'émission « Mémoire retrouvée ». Dans le premier volet de cet entretien, Pierre Boulez nous parlait de sa découverte de Stravinsky au début des années 40. Le tout jeune Pierre Boulez entend pour la première fois le chant du Rossignol devant son poste de radio.
Mémoire retrouvée. Aujourd'hui, Pierre Boulez se souvient d'Igor Stravinsky et il évoquera pour nous son enfance et son adolescence provinciale, sa jeunesse pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, et puis enfin les années d'apprentissage avec Olivier Messiaen et René Leibovitz.
Thank you.
Alors la première chose que j'ai entendue de Stravinsky, c'était le chant du Rossignol. C'est-à-dire une partition en général très peu connue. Et c'était une radiodiffusion, à l'époque, de la Suisse romande. C'était Ansermet qui dirigeait. Et j'essayais, puisque dans la petite ville où j'habitais, où il n'y avait pas d'orchestre du tout, donc il n'y avait pas de concert. Et donc je tâchais de me mettre au courant de la littérature en général, que ce soit du reste la littérature pianistique ou instrumentale en général, que de la littérature d'orchestre, j'écoutais la radio, au moment où c'était possible, bien sûr. Et c'était pendant les vacances, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle très bien de ce Rossignol qui m'avait énormément surpris, bien sûr. Bon, le nom de Stravinsky était très connu, et donc le nom, au contraire, du chant du Rossignol m'était complètement inconnu. Quand j'ai écouté, je me rappelle très bien d'un passage, et quand je rejoue le chant du Rossignol maintenant, je me souviens encore de cette première impression que ce passage m'avait fait. C'est quand le violon solo est accompagné par deux clarinettes, par des arpèges de deux clarinettes. Et ce violon solo, qui est une mélodie assez simple du reste et assez tonale, je dirais, mais est accompagné par des arpèges qui n'ont rien à voir avec une harmonie, disons, conventionnelle. Si bien que je me souviens de cette différence qu'il y avait entre l'énoncé du violon et l'accompagnement fait par les deux clarinettes. Je me souviens très bien de ça et je me souviens que de ça, pratiquement. Je me souviens absolument de rien d'autre. Mais quand j'ai réécouté le chant du Rossignol pour la première fois, c'était avec Roger Desormières. Il dirigeait l'orchestre de Strasbourg et j'étais moi-même à Strasbourg, non pas en villégiature, mais pour jouer des ondes Martenot dans un opéra de Marcel Delannoy. C'est vous dire, enfin, il y a beaucoup de références, oui, dans ce rendez-vous. Et Desormières m'a semblé comme une bouée de sauvetage dans tout ce méli-mélo. À l'époque, c'était en 1948, si je me souviens bien. Et naturellement, je connaissais Desormières déjà, et je suis allé à ses répétitions. Et il répétait précisément le chant du Rossignol. Et j'ai retrouvé ce passage, bien sûr, intégralement, qui m'avait frappé à l'époque. Et puis, je me rappelle très bien, alors du reste aussi, du chant du Rossignol. Et c'est probablement la première fois que j'ai entendu Stravinsky. Ça devait être, je ne sais pas, en 41, en 42. Thank you. Pierre Boulez.
La première œuvre que Messiaen a analysée dans sa classe, non pas dans sa classe du reste au conservatoire, mais dans la classe qu'il faisait en dehors du conservatoire. Comme on le sait maintenant, il prenait, disons, les meilleurs de ses élèves qu'il choisissait lui-même, et il faisait des cours à l'extérieur du conservatoire sur des musiques qu'il analysait. Et une des premières œuvres qu'il analysait, ce n'est pas du tout le Sac du printemps, mais c'est Petrouchka. Et je me souviens très bien de son analyse rythmique, en particulier de Petrouchka. Et puis, il analysait non seulement la musique, mais il faisait, disons, allusion à l'argument du ballet. C'est-à-dire qu'il expliquait la musique par l'argument du ballet, ce qui est tout à fait normal. En particulier des personnages, en particulier le personnage de la danseuse qui est tellement bête, qui danse sur cette espèce de petite valse bébête, qu'il choquait non pas qu'il choquait, mais il trouvait que la féminité, simplement sous cet aspect-là, était tout de même pas le meilleur de la féminité, disons. Et puis le maure aussi, par rapport à Petrouchka, ce pauvre Petrouchka malheureux par rapport au maure qui est au contraire dominateur et assez bête aussi dans sa transcription musicale. Et je crois qu'il attachait beaucoup d'importance aussi à la cadence de piano qui représente Petrouchka. Et il analysait non seulement le rythme, mais en général aussi tout le caractère de la musique. Le caractère de la musique par rapport au ballet, précisément, et spécialement dans le quatrième tableau où toutes les choses se suivent. Je me souviens donc de cette analyse de Petrouchka, qui n'était pas tellement une analyse technique, je dirais, mais plutôt une analyse de contenu. Et l'analyse technique, il la réservait pour certains passages qui indiquent déjà, une direction vers la rythmique du Sacre du printemps, mais qui n'est pas vraiment fondamentalement la technique de Petrouchka. Personnellement, je trouve que la technique de Petrouchka, je l'ai découvert plus tard et plutôt tout seul, enfin c'est la technique du collage. C'est-à-dire une technique où les choses ne sont pas développées vraiment, mais collées les unes aux autres et s'agglutinent dans des proportions et dans des successions différentes, suivant même pas tellement l'argument du ballet, parce qu'il aurait pu faire un argument plus continu, mais quelque chose qui est discontinu et qui forme finalement une narration.
Thank you.
J'imagine que sous l'occupation, on n'entendait pas de Stravinsky. Il était banni.
Eh bien, je crois que, je vais vous détromper, je crois que la seule chose que j'ai dû entendre, c'est les deux petites suites. Je crois quelque chose comme ça. C'est pas vraiment le plus révélateur de Stravinsky, certainement pas. Je crois que c'était au concert de Ubradus. C'est-à-dire, il y avait un bassoniste qui s'était mis à la direction, qui s'appelait Fernand Ouradous, et qui avait un groupe de musique de chambre, d'orchestre de chambre plutôt, et c'est la seule œuvre que j'ai entendue de Stravinsky pendant l'occupation. Je pense pas que Stravinsky ait été banni pendant l'occupation, le nom de Stravinsky n'était pas banni du tout. Contrairement, par exemple, aux Viennois. Mais les Viennois étaient bannis déjà à l'avance. Je veux dire, les Français ne s'étaient jamais précipités à Paris pour jouer les œuvres des Viennois. Il y avait un antagonisme de culture, il y avait une incompatibilité de caractère qui fait que, oui, on a découvert... J'ai lu récemment un article qui était très intéressant dans la revue de musicologie. C'est pas une revue que je lis souvent, mais on me l'avait signalé. C'était un article sur la réception de Schoenberg en France. Et c'est très, très intéressant de voir comment il y a eu une espèce de curiosité vers les années 1920.
Et puis. Il a même créé sa suite.
La suite,
à Paris.
Opus 29, ouais. A été créée à Paris, exact. Il y a eu une espèce d'élan de curiosité. Et après, tout le monde s'est découragé. Et il n'y a plus eu du tout de fréquentes interprétations de Schoenberg.
Pour en revenir à Stravinsky, on parle aussi dans les livres de l'époque de ce grand mouvement qui a suivi, avec le National en particulier, où on a joué en 46, 47, 48 toute la musique de Stravinsky. Et à l'époque, Stravinsky, si pour Messiaen ou pour votre génération, c'était les grands ballets, et la musique jusqu'à Noce en gros, les symphonies d'instruments avant, tout ça. Stravinsky non seulement n'était plus en France, mais il était vraiment un peu vilipendé par tous les gens qui admiraient la période russe et toute cette période néoclassique. On n'aimait pas beaucoup. Et alors, vous avez hué à des concerts, dit-on.
Non, je crois que... Oui, dit-on, oui. Je crois qu'il y a, au contraire, là, une distorsion des fêtes, en tout cas. Ces fêtes, je les ai vécues, donc je peux en parler. Pour moi, ça rappelle toujours, le climat d'avant-guerre. C'est-à-dire que Stravinsky dominait la scène musicale française. Ce n'est pas les six. Les six étaient, disons, un phénomène assez voyant, mais je veux dire, c'était tout de même Stravinsky qui dominait intellectuellement et musicalement la scène musicale française et parisienne, bien sûr.
Et socialement aussi, tout de même.
De toute façon. Enfin, vraiment, d'une façon très générale, c'est Stravinsky le maître à penser, même. Et puis, avec les élèves, je veux dire, Nadia Boulanger était là pour dire la messe, enfin, c'est-à-dire, et prêcher la bonne parole. Donc, il y a eu Stravinsky et beaucoup de gens, même des gens comme Poulenc, qui étaient plutôt d'un gentil caractère, je dirais. Mais Stravinsky était pour eux une espèce d'idole indépassable. Et pendant la guerre, bon, tout ça s'était amorti, il n'y avait pas grand-chose dans ce sens-là, en tout cas. Et après la guerre, très curieusement, ça m'a fait l'impression comme si on retrouvait l'avant-guerre, c'est-à-dire comme si on voulait retrouver l'avant-guerre, exactement. Vous savez, quand on a retrouvé le beefsteak, on a dit « Ah, les beefsteaks sont bons comme avant-guerre ». Puis quand on a retrouvé les petits pois, on dit « Ah, les petits pois, c'est comme avant-guerre ». C'est-à-dire la nourriture, les vêtements, tout ça était comme avant-guerre.
C'est la restauration, ça.
C'est une espèce de restauration. Et les milieux musicaux ont voulu aussi... disons, faire comme avant-guerre, comme si la guerre n'avait pas existé. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas eu 5 ans, vraiment, d'évolution souterraine, en tout cas, et d'une nouvelle génération qui, comme la mienne, enfin, telle à laquelle j'appartiens, et qui n'avait pas du tout envie de revenir avant-guerre, parce que d'abord, avant-guerre, il n'avait pas connu. Donc, c'était difficile de revenir. Et c'est pour ça qu'il y a eu un mouvement. En effet, on admirait beaucoup le Stravinsky des grands ballets, c'est-à-dire, en effet, comme vous l'avez dit, de l'Oiseau de feu, surtout à partir de Petrushka jusqu'à Nos. La symphonie instrument avant était beaucoup moins connue. Mais Nos, oui, et même la symphonie de psaume. Mais tout ce qui était période néoclassique, alors qui enchantait nos chers Français, nous n'en voulions pas du tout. Et alors, on avait été tout de même aiguillés par Messiaen qui, sans faire de prosélytisme, parce que c'était pas du tout son genre, mais Messiaen détestait aussi cette période néoclassique. Je dois vous dire aussi que c'était une des rares fois où j'ai vu le bout de ses dents, si je peux dire, c'est qu'il détestait aussi le mouvement lent du concerto de Ravel pour les deux mains, cet adagio qu'on dit sublime. Messiaen trouvait que c'était du néoclassicisme cousu main et un peu à la lumière des chandelles. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui le heurtait profondément là-dedans. On a été, non pas poussé du tout par Messiaen à détester le Stravinsky néoclassique, mais enfin c'était le principe de son enseignement allait totalement contre cela, quoiqu'il n'ait jamais pris parti vraiment ouvertement. Et alors en effet, il y avait la classe Messiaen qui était assez remuante à l'époque. Et surtout, il y avait une certaine manifestation comme contre l'avant-guerre, disons. Et il y a eu une confusion après, c'est anecdotique bien sûr, mais enfin, la première manifestation contre Stravinsky a été au concert de la Pléiade. Les concerts de la Pléiade étaient des concerts organisés par André Scheffner. Et dans ce concert, je ne me rappelle pas du tout du reste du programme, mais il y avait une œuvre de Dalla Piccola. Et puis, une œuvre de Stravinsky. Je ne me souviens plus si c'était les danses concertantes ou quelque chose comme ça. Alors, pour vraiment manifester notre goût et notre choix, nous avons fait un triomphe à Dalla Piccola qui ne le méritait pas. Du reste, c'était une œuvre de 1937 assez anodine, finalement. Et puis, on a manifesté très violemment contre Stravinsky, ce qui ne méritait pas non plus, parce que c'est une œuvre anodine aussi et qui ne méritait pas une telle fureur. Et après, je me souviens, on est allé trouver des Ormières, parce qu'on respectait beaucoup des Ormières, c'est lui qui conduisait ce concert, et on est allé s'excuser en disant que ce n'était pas contre lui qu'on manifestait, mais contre l'œuvre. Il a du reste accueilli ça avec beaucoup de bienveillance, et la soirée s'est passée comme ça. Ensuite, il y a eu un cycle Stravinsky à la radio, organisé alors par Manuel Rosenthal, à l'époque. Et là où on a donné toutes les œuvres, les grandes œuvres, comme les plus petites œuvres. Et je me souviens que ce qui a déclenché la fureur, c'était...
Fureur?
Non, pas ma fureur, vous allez voir, j'ai dit la fureur. C'était les esquisses norvégiennes, qui ne sont pas non plus un chef-d'œuvre du très grand Stravinsky, qui est un peu de sa période américaine, un peu sèche, je dirais, enfin, où l'inspiration a séché. Et alors on a dit que j'étais là, que j'étais un des meneurs, et je ne pouvais pas être là parce que j'étais déjà engagé chez Jean-Louis Barrault et Malène Renaud dans la compagnie, et je travaillais tous les soirs. Donc, j'étais totalement absent de ces concerts et tout ça s'est passé en dehors de moi, si je peux dire. Donc voilà, on m'a remarqué, j'ai les épaules suffisamment larges pour accepter ce cadeau. Mais ça s'est passé sans moi. Et alors après, il y a eu, disons, des manifestations assez régulières de pour et de contre, et à laquelle je n'ai jamais assisté parce que j'étais aussi toujours au travail les jours de concert. C'était, je crois, les jours de concert, c'était jeudi soir et jeudi, il n'y avait pas de relâche chez moi.
Pierre Boulez évoque maintenant l'antagonisme très fort à la fin des années 40 entre Stravinsky et Schoenberg.
D'abord, au moment même où on était sorti de la classe de Messiaen et même de sa classe en dehors du conservatoire, Leibowitz avait donné des cours sur l'école de Vienne. Et donc, ça nous intéressait beaucoup. Et en même temps, il y avait chez Messiaen, même s'il, il était plutôt limité à Stravinsky et très peu orienté sur Schoenberg, mais surtout sur Pierre Lunaire. Par exemple, il connaissait le Pierre Lunaire et il connaissait la suite lyrique de Berg. C'était les deux œuvres, au fond, qu'il connaissait bien. Mais évidemment, Leibowitz avait beaucoup plus de connaissances directes et depuis plus longtemps de ces partitions. Mais c'était à la source d'un académisme qui, pour moi, était absolument insupportable. Je veux dire, quand on passait des matinées à compter jusqu'à 12 et de 12 à 1, c'était vraiment insupportable. Il n'y avait aucune créativité. C'était totalement stérile. Et donc, ça entraîne une espèce de réaction nerveuse, je dirais. Alors, la réaction a été, premièrement, d'écrire « Schoenberg est mort ». Schoenberg est mort, pourquoi? C'était pas du tout un titre agressif, comme il a été pris par la suite. Je suppose que beaucoup de gens ont lu le titre, mais n'ont jamais lu l'article. Et cela voulait dire que, oui, il faut prendre conscience du fait que Schoenberg est mort, et maintenant, il faut aller plus loin. Qu'il suffit pas seulement de se limiter à l'enseignement du maître, et de recopier ce qu'il a fait, et d'avoir une sorte d'attitude servile par rapport à son œuvre. Mais au contraire, il faut l'explorer, aller plus loin, critiquer ce qui nous paraît critiquable, et au contraire, faire son profit de ce qui nous paraît très positif. Donc c'était simplement un état des lieux, finalement.
Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen. Und eine Sprengflut überschwemmt den stillen Horizont. Gelüste schauen über mich und sehen. Meers, doch schwimmen ohne Zahl die Fluten. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Der Dichter, den die Andacht treibt, berauscht sich an dem heiligen Tranke, denn wenn er verzückt das Land und taumelnd saugt und schlürft er den Wein, den man mit Augen trinkt.
Tücher. Und die sanfte Magd des Himmels von den Zweigen zart umschmeichelt, breitet auf die dunklen Wiesen ihre lichtgewobenen Linnen. Eine blasse Wäsche
Blut färbt die Lippen einer Kranken. Also ruht auf diesen Tönen ein vernichtungssüchtiger Reiz. Wilde Lust, Akkorde stören die Verzweiflung meistgetrun. Wie ein blasser Tropfen Blut färbt die Lippen einer Kranken. Heiß und jauchzend, süß und schmachtend, melancholisch, düsterer Walzer, kommst mir nie mehr aus dem Sinn, haftest mir an den Gedanken, wie ein blasser Tropfen Blut.
Stravinsky demeure est un exemple parce qu'il y avait en effet une attitude très négative avec Stravinsky, mais je voulais surtout par ce titre, qui du reste était repris à Char, Seul demeure, qui est un titre poétique que Char avait donné au recueil de poèmes publié en 45-46. Stravinsky demeure fait appel à la notion que Stravinsky avait développée dans Le Sac du Printemps, puis c'est une analyse pas complète d'ailleurs, une analyse partielle de certains passages du Sac du Printemps. Et donc je voulais prouver que en dépit du fait que, disons, du côté de Leibowitz, on disait que Schoenberg était le seul maître à penser, que ce n'est pas vrai, qu'il n'y avait pas qu'un seul maître à penser, mais que Stravinsky demeurait bien là aussi comme autre maître à penser. Et c'est pour ça que ces titres, je crois que personne n'a lu au-delà des titres. De même que quand j'ai dit, il faut faire, ou je n'ai pas dit, du moins, un interview que j'ai donné plus tard et qu'on a résumé sous le titre « Il faut faire sauter les maisons d'opéra », personne n'a lu cet article alors que c'était contre la routine et non pas du tout contre les maisons d'opéra. Alors, il faut bien se mettre dans la tête que beaucoup de gens lisent les têtes d'articles mais ne lisent pas l'article.
Thank you.
Boulez dirigeait l'orchestre de Cleveland dans cet extrait du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Ainsi s'achève la première émission que Jean-Pierre Derrien avait consacrée à Igor Stravinsky dans les souvenirs de Pierre Boulez en 2002. Cette archive est disponible à la réécoute ou en podcast sur le site francemusique.fr ou sur l'application Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.